Et bonjour tout le monde. On est quoi aujourd'hui? On est quoi? On est lundi? On est lundi. On est lundi, et si je suis un peu dérouté, c'est parce qu'en fait là je marche, on est en pleine nuit. Et je marche, juste la lumière me gêne. Voilà, parfait. Et je marche, oui c'est bon, j'ai fait mes petits réglages, pardon. Sur un petit chemin après avoir passé une journée à donner des cours. Voilà, et on a fait des trucs super aujourd'hui, et la thématique tournait pas mal autour de la prospection, et ça tombe bien parce que demain, je fais ma première masterclass mensuelle dans le Cercle des Rédacteurs, donc la communauté du Cercle des Rédacteurs, pour les membres sur la prospection. On va reprendre un peu les fondamentaux. Et là, comme je marche tranquillement, il y a des rivières sur le côté, il y a un champ de l'autre côté. On est en pleine nuit, je ne sais même pas où je mets les pieds. Je m'étais dit que j'allais peut-être discuter aussi un petit peu avec vous de tout ça, parce que il y a un projet qui est d'essayer de se rendre un peu utile à l'extérieur du cercle aussi, avec des vidéos en live, des trucs comme ça, pour parler justement un petit peu de ce sujet qui a l'air d'être vraiment la préoccupation de tellement de gens. À juste titre, c'est le moteur, c'est le carburant. Comme disait Max, sans essence, on va nulle part. Et donc finalement, il nous faut faire de la prospection. Et c'est vraiment le problème de tous les freelances. Et là, on vient de faire un cours avec les élèves de Rédacteur Pro. C'est un débat, en quelque sorte. Donc on explore une question ensemble, et la question portait sur la fragilité économique, justement, du modèle freelance. Donc chacun donne un peu ses points de vue, on explore, on pose des questions, on enrichit, on va chercher des éléments en plus, on essaye de donner un sens à tout ça. Et il y a vraiment une notion étrange du côté de la prospection qui est que c'est difficile. Moi j'ai du mal avec ça. C'est pas que c'est facile, j'ai jamais dit que c'était facile, mais c'est un travail. C'est pas difficile. Ce qui est difficile, c'est de voir que ça marche pas. Mais c'est difficile parce qu'en fait, on se fixe beaucoup trop d'espoir sur le fait que ça marche ou pas. On laisse pas à la vie l'opportunité de nous décevoir, quelque part. On n'anticipe pas ces choses-là. Et donc, c'est très dur quand on est, je sais pas, moi par exemple, j'ai beaucoup investi dans un contrat qui devait être de l'ordre de 10 à 15 000 euros de contenu. C'était un très gros site français. Le patron m'avait téléphoné, il voulait discuter avec moi. On accrochait vraiment bien, deux réunions de 2 heures. J'ai refait quasiment toute sa stratégie. Il a établi plein de trucs, mis plein de chantiers en place. Il m'a dit « je te rappelle ». Bon, ben, il m'a pas rappelé. Par contre, a priori, il est allé au bout des conseils que je lui ai donnés. Vous voulez que je fasse quoi? La vérité, c'est des fois on gagne, des fois on gagne pas, pour pas dire qu'on perd. Mais on apprend, on développe. Et puis surtout, j'ai utilisé une métaphore là dans le débat que j'ai fait ce soir, que je trouve intéressant, qui est de dire « Ok, je vous ai donné un carré de terre et quelques outils pour faire du jardinage. » Et vous devez trouver un moyen de vous nourrir tous les jours. Vous avez un terrain. Qu'est-ce que vous faites? Alors il y a des chances qu'au début, vous commenciez à faire un peu une espèce de monoculture. Un truc rentable, qui va vite, qui pousse bien, genre du blé. Et puis, on se rend compte que ça pousse pas, ou mal. C'est pas le bon terrain. Ça va pas, c'est pas comme ça que ça marche. Le blé, c'est non. Ou alors, le blé, vous faites une récolte, vous vous dites tranquille la vie, et la fois suivante, il y a le feu. Votre récolte est détruite. Bref, il faut diversifier. Mais diversifier, c'est pas n'importe quoi. Diversifier, c'est de dire, ok, je vais faire du blé et des tomates. Ou quelque chose de plus nutritif. Du blé et des courgettes. Du blé et du manioc. Du blé et... Je ne sais pas. On n'est pas encore à l'ère où on fait des petits piments et puis du gingembre et puis je sais pas quoi. On n'est pas à cette ère-là. Il faut produire. Il faut avoir à manger. Il faut la sécurité alimentaire. C'est important. Et puis à un moment, il sera peut-être question d'utiliser le blé, une partie du blé, pour nourrir des animaux, pour les protéines. Par exemple des poules. Et on les nourrit de blé. Donc il faut que le blé produise pour que le poulet produise. Et puis, ben, il y a un renard qui passe et qui bouffe toutes les poules. Ou une partie d'entre elles. L'investissement que vous avez fait est tombé à l'eau. Donc vous renforcez la cage des poules. Vous essayez de la rendre plus efficace, plus résistante aux attaques extérieures. Et puis vous revenez sur votre potager. Et puis il y a ce grand arbre qui fait de l'ombre. Alors vous coupez l'arbre. Et puis vous essayez de cultiver autrement. Vous essayez de faire des paliers. Vous essayez de faire une planification. Vous étudiez la vitesse à laquelle telle plante produit par rapport à telle autre. Peut-être que vous les placez ensemble pour faire de la permaculture, pour optimiser les résultats. Le but étant, sur le même terrain, de produire un maximum de rendement pour que votre jardin puisse devenir très nourrissant et très sécurisé. Que vous n'ayez pas à vous inquiéter pour votre potager. Mais le potager, c'est une science. Entre les plantes qui vont vite à produire et celles qui sont lentes, celles qui produisent des aliments qui ont peu de nourriture dessus, qui sont pas suffisamment nourrissants pour faire des repas, mais en même temps qui pourraient être, je ne sais pas, échangés avec quelqu'un d'autre contre des choses. Je veux dire, il y a des régions entières qui reposent sur les carottes et les patates. Il n'y a rien de plus nourrissant que ce truc-là, mais ça met du temps à se faire. Et puis, on peut aussi essayer de mettre en place des méthodes pour produire en hiver quand même si il faudra peut-être attendre une année pour que ça puisse produire enfin. Mais c'est de l'ordre de la survie, depuis toujours. On est là et on regarde les gens avec leur potager en disant ah, « Ok, vas-y papy, allez, fais ton potager ». On ne mesure pas à quel point c'est de la science. Alors vous pourriez me dire « Ok, comme mes élèves m'ont dit tout à l'heure, revenons à notre sujet. Est-ce que tu es sûr que ça concerne toujours les freelances ?» Ben oui, complètement. On est en train de parler de prospection et j'avais envie de développer ce petit raisonnement-là avec vous, justement. La prospection, est-ce que c'est pas ce carré de terre ? Est-ce que c'est pas la question de ce qu'on y plante et ce qui y pousse ? Ce qui s'y sent bien et ce qui ne s'y sent pas bien ? Les plantes où on vous promet un brillant rendements qui en fait sont décevants parce que quelque chose d'autre est en concurrence dessus, ou parce que ça ne fonctionne pas, ou parce que chez vous c'est pas la bonne terre, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a bien une chose que tous les rédacteurs web veulent, c'est bien la sécurité financière, le fait de ne pas avoir à s'inquiéter. Il y a des gens qui utilisent le terme d'indépendance financière, je trouve que c'est trop intime. Je suis pas à l'aise avec ça. Je comprends que peut-être pour vous ça fasse sens, mais ça parle de votre peur de la dépendance, ça parle de votre situation de dépendance précédente, ça parle de votre rapport au salariat. Ne parlons pas de ça. Vous êtes capitaine, vous avez investi dans un bateau, vous êtes prêt à partir, partez. On part à l'aventure, on y va. Et puis on verra bien, mais il faudra bien réussir à avoir de quoi se nourrir pour continuer le voyage. Il faudra bien espérer des plus vertes vallées, des eaux plus poissonneuses, peut-être même des trésors à certains endroits. On est un capitaine sur son bateau et on est parti pour faire carrière. Et le voyage, comme le bateau d'Ulysse, le voyage sera la carrière. Le bateau d'Ulysse qui est revenu à son port après un très long voyage et qui ne contenait plus une seule planche d'origine, mais qui était toujours le bateau d'Ulysse. C'est un peu pareil. Quand vous partez en tant que freelance, vous ne savez pas quand vous allez revenir quelque part. Vous êtes en voyage permanent. Vous êtes en quête d'opportunités permanentes. Vous êtes en train de chercher à faire des nouvelles alliances, des nouvelles rencontres, vivre des nouvelles choses. Je vous fais un peu comme ça mon bilan de la journée, parce que c'était une journée finalement très riche. Ce matin, j'ai discuté avec Sabrina, que je salue parce que je sais que tu m'écoutes, Sabrina. Je te salue, ça me fait plaisir. Sabrina qui parlait justement, qui est rédactrice web de talent, formée l'année dernière au Cercle des rédacteurs et depuis brillamment autonome, qui disait qu'elle avait participé à à ce challenge sur LinkedIn qui s'appelle Ramène ta fraise, dans lequel en fait plus de 5000 femmes, entrepreneuses et auto-entrepreneuses, freelance en général, ont rajouté la fraise et fait des posts communs sur des sujets communs au fur et à mesure de 5 jours, je crois, de challenge. Et la question, c'était qu'est-ce que ça m'apporte ? Et moi, je pense qu'on est au cœur de la question de la prospection. Sauf que la prospection, c'est pas seulement de travailler sur le rendement. Des fois, on travaillera sur le prestige. Des fois, on travaillera sur l'identification. Des fois, sur la personnalisation. Peut-être que vous allez chercher à faire une variété de carottes que personne d'autre ne fait pour pouvoir l'échanger. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais en gros, désolé, il y a du vent. En gros, c'est ça le raisonnement. C'est-à-dire, si 5000 femmes deviennent visibles en travaillant ensemble sur une communication générale, elles envoient le signal qu'elles sont unies et fortes ensemble. Ce qui est quelque chose que les autres entendent. Parce que si elles ont été invisibilisées, c'est parce qu'elles étaient séparées les unes des autres. Parce qu'en fait, elles n'avaient pas de force propre. Je parle pas de caractère, je parle de force propre. Le fait qu'elles aient participé à ce challenge et qu'elles aient dérangé ensemble, c'est-à-dire que ça, il y a plein de mecs qui ont commencé à dire que vraiment c'était chiant, oh là là, c'est quoi ces fraises, on est quand même sur LinkedIn, c'est du boulot. Bref, des imbéciles. C'est parce que on se souvient de ce challenge et parce qu'on estime les femmes qui ont participé à ce challenge et qui ont voulu se rendre visibles en étant en sororité quelque part, c'est-à-dire unies et fortes ensemble, c'est pour ça qu'en fait il y a une plus-value sur le personal branding des rédactrices web qui d'un coup gagnent quelques points sur l'indice de caractère et donnent beaucoup plus l'impression d'être individuelles alors même qu'elles ont fait une démarche collective mais audacieuse. Donc c'est très intéressant de voir que dans l'aventure, il y a de temps en temps ce genre de rencontres, ce genre d'événements. Moi, j'en ai fait aussi. Là, j'ai Fleur qui m'a sorti une page de journal. Il y avait, comment ça s'appelle, SEO Camp, qui avait fait un événement à Metz, dans ma ville, et qui m'avait demandé à moi, en tant qu'agence de production de contenu, de financer le truc, d'arroser un peu. Et j'avais dit, ah bah oui, opportunité de me détacher, possibilité de communiquer, montrer des nouvelles alliances, créer du réseau, ça m'intéresse. Et j'avais mis, je sais pas, 200 ou 300 euros dedans. Et à la fin, on était quatre, et ils ont tout bu, en alcool. Et je crois qu'il n'y en a pas un qui se souvient de moi. Donc, des fois, on tente des coups, des fois, ça rate. Mais des fois, on tente des coups et des fois, ça marche. Et c'est vraiment ça, le cœur de la prospection. La prospection, en fait, est indissociable du personal branding. Alors, je vais un petit peu vite, si jamais vous êtes débutant sur cette question. Le personal branding, c'est une forme de cohérence et d'individualisation qui repose sur les valeurs, notamment. C'est-à-dire, pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre ? En quoi vous êtes spécial, mais pas vous écrivez bien, vous faites pas de faute, ça tout le monde fait ça. C'est pas ça la question. La question c'est qui vous êtes en tant qu'individu. C'est la raison pour laquelle on achètera quelque chose chez vous. On croira en vous et en votre promesse, qui est unique. Pas question de juste faire une promesse sur des contenus qui rankent. Faites des promesses sur le fait que vous vous engagez à ces contenus qui rankent et que vous allez les chercher ces contenus qui rankent. Avec de la méthode et du savoir, mais soyez cette espèce de tête d'ampoule qui cherche à longueur de temps comment faire mieux. Et ou soyez au contraire la personne extrêmement intuitive qui comprend les tendances et les choses comme ça. Soyez la personne qui se lève à 2h du matin pour travailler très dur. Ou alors celle qui, pour qui tout est de l'or. À chaque fois que je parle, j'ai quelqu'un en tête. Celle pour qui tout est de l'or et qui est à la fois mannequin et spécialiste du marketing et voyageur et photographe et je ne sais quoi d'autre. Vous avez tous ces personnages-là qui racontent quelque chose et auquel on croit ou on ne croit pas. Parce que les gens qui se ressemblent s'assemblent en business. Dans la vie, je vous laisse le choix. Je pense qu'il faut avoir certains points d'accroche. Il faut pouvoir, comme disait mon grand-père qui m'avait donné il y a très longtemps une grande liste de citations chinoises anciennes, parce qu'il trouvait qu'il y avait de la sagesse là-dedans. Il y avait une citation qui disait « Choisis ta femme », bah oui, c'est très très ancienne citation, « Choisis ta femme plus intelligente que belle, parce qu'un jour elle sera vieille et il faudra parler. » Et quelque part, je pense qu'on se bâtit comme ça, en fait. Je pense que tout ce qui est attributs superficiels disparaît avec le temps et même avec l'âge, c'est-à-dire que plus les gens avancent et moins c'est important cette question-là. Ce qui va être vraiment important, c'est ce qu'ils ressentent. Et je crois quelque part que les gens sur LinkedIn qui font tellement de brouhaha autour de leur chiffre d'affaires démentiel essayent de vous vendre quelque chose, c'est certain, mais tous ceux qui sont vos concurrents et qui font du bruit et du bruit et du bruit, je pense qu'ils n'intéressent pas tant que ça les clients qui cherchent surtout à avoir une relation sécurisée, parce que même les clients peuvent être impressionnés par un freelance qui dit qu'il a fait 20 000 euros de chiffre d'affaires. Le client, il se dit, mais combien il coûte? Combien il coûte? Si son dernier contrat ramène 20 000 euros, combien il coûte? Et donc, c'est pas... c'est out of my league, quelque part. Et puis surtout, je donne 20 000 euros. Je me souviens de... C'était Greg Lagrange. Je lui avais demandé si on pouvait faire un entretien. Il m'avait dit 2500 euros l'heure. Je lui ai dit, mais je les gagnerai, les 2500 euros, après. Il dit, ça dépend de toi. Je lui ai dit, c'est hyper angoissant. En fait, c'est comme si je faisais tapis et que je mettais tout ce que j'avais, à l'époque, tout ce que j'avais sur la table pour me payer les services d'un Greg Lagrange, qui est un copywriter. Un peu nonchalant, un peu... Et sans doute qu'il les vaut, hein. Mais et si j'arrive pas après à faire ce qu'il demande, je suis mort. Donc c'est un peu terrible. Ça rappelle le film Timeless, je crois, où les gens ont un timer sur le bras qui correspond à leur durée de vie, et en fait ils peuvent s'échanger ces heures et ces minutes, ce qui fait que ça crée tout un écosystème sociétal autour de ce temps. C'est-à-dire on paye les gens avec du temps. On donne des choses, on vole du temps dans la rue, etc. Donc c'est très métaphorique, mais quelque part c'est ça. C'est, si vous faites tapis et que vous n'avez plus rien, votre entreprise elle meurt. Alors c'est inquiétant, il y a plein de gens qui vous demandent de payer des choses. Même moi d'ailleurs. Payez pour rentrer dans le cercle, venez dans le cercle et profitez de tous les conseils qu'on va vous donner. Et de l'accompagnement qui n'est pas pour l'instant très lourd, mais que j'aimerais beaucoup développer davantage. Pour l'instant c'est un rendez-vous de 2 heures par semaine, c'est pas si mal. Surtout des choses qui concernent votre activité. Mais s'il faut payer pour avoir le droit à ça, profitez-en, il y a une offre de 30% actuellement d'offres découvertes. Donc on voudrait que vous regardiez si ça vous intéresse ou pas. Vous pouvez même prendre qu'un seul mois si vous voulez, c'est pas cher. Mais s'il faut payer pour avoir le droit de gagner, quelque part, ça veut dire qu'il faut investir. Et ça veut dire que certains investissent et passent devant les autres. Est-ce que les petits malins qui travaillent dur arrivent, eux, à faire de la prospection? Est-ce qu'ils arrivent à aller chercher les clients, à les convaincre? Est-ce que c'est sur le prix que ça va être différent? Peut-être, parce que tout simplement, la grande vérité, comme ça, ça m'aide aussi un petit peu à préparer la masterclass de demain, je cherche un angle très enrichissant. La grande vérité, c'est que tous vos clients sont différents les uns des autres. Vous avez le fantasme du client unique, comme les hommes ont le fantasme de la femme unique, à qui ils plaisent ou qui ne plaisent pas. Vous savez, il y a des hommes, ils disent « Moi, je plais à personne. » Putain, 3 milliards et demi de femmes sur Terre, 4 même, 4 milliards sur Terre. Et on est sûr que ce gars plaît à personne. Vraiment, c'est ouf de penser ce truc-là. Mais c'est vrai, c'est un fonctionnement de notre cerveau. Alors, je dis ça comme ça, mais c'est Lacan, en 1950 ou 60, qui a établi le concept de la femme, l'âme, L-A majuscule, qui est ce concept-là. Mais voilà, donc, quelque part, les freelances ont aussi la même chose, l'angoisse du client, le client, L-E, le client, celui qui vous rejette, celui qui ne s'intéresse pas à vous. Mais le client, dites-moi, c'est lequel? On parle duquel? Parce qu'il y a le client patron d'entreprise qui a besoin de contenu, et qui en a rien à foutre de vous, de vos humeurs et tout ça. Lui, il fait un appel d'offres, il dit quasiment quel prix il va payer par contenu, et puis on y va. Il y a le client qui travaille dans une entreprise, mais qui n'est pas le patron, mais qui travaille à la communication et qui a besoin de contenu. Et lui, il en a rien à foutre de combien vous coûtez. Du moment que vous faites le travail, vous envoyez la facture au service comptable, et puis vous lui foutez la paix. Donc voilà. Mais il y a aussi le client d'association qui, lui, veut vraiment que les animaux soient heureux dans la vie et que c'est terrible tout ce qu'on fait aux pandas. Et il voudrait des contenus, mais pas cher, parce qu'il n'a pas l'argent. Il n'y a pas de source de revenus dans son association. Il y a bien des dons, mais c'est pour les pandas, pas pour les contenus. Donc on ne peut pas. Donc, allez, toi aussi, tu veux sauver des pandas. Il y a le client qui a une boutique en ligne et qui connaît pas grand-chose, mais il sait qu'il a besoin de texte. On lui a dit que Google aimait les textes. Alors, il a commencé à en écrire lui-même, mais c'est long, c'est chiant, c'est ennuyeux, c'est pas le boulot qu'il voulait faire. Il a l'impression d'être en classe. Donc lui, il a besoin de quelqu'un pour faire le job. Il y a le client qui se lance et qui connaît rien, et qui se sent très seul, et qui est très angoissé, parce qu'il fait ce qu'il peut, mais il se passe rien. Il y a une blague que j'ai partagée sur les réseaux, comme ça, le cercle, qui est vraiment un post qui a existé d'un mec qui était en train de sortir un site internet sur les 30 meilleurs conseils de SEO, et qui était dans une communauté SEO et qui avait posté ça en disant « J'arrive pas à faire progresser mon site sur les 30 meilleurs conseils SEO, est-ce que vous pouvez venir m'aider parce que Google le repère pas et je n'arrive pas à me positionner ?» C'est drôle, je veux dire, mec, tu vends ta méthode quand même. Mais c'est un peu ça, peut-être que c'est quelqu'un d'angoissé qui essaye de vendre quelque chose et il sait pas vendre. Il est passionné d'un truc, genre j'ai connu cette cliente qui vendait des chaussures qu'on voyait dans les films des années 60, italiens, c'est précis. Hein. Elle vendait des modèles de chaussures qui portaient le nom du film, genre Borsalino ou je sais pas quoi, les Visconti, les trucs comme ça. Donc, c'est qui achète ces chaussures-là? Qui se dit « Oh, les chaussures de Borsalino! Oh, nom de Dieu, combien elles coûtent, je les veux !» C'est qui? Je sais pas, c'est pas moi, c'est certain que c'est pas moi. J'ai aucune passion pour les films des années 60. Après, tu me vends les chaussures Nike de Retour vers le futur, on peut discuter. Mais voilà, c'est qui? Quel est le profil de la personne qui fait ça? Ça, c'est un client qui a besoin qu'on lui dise quel est le profil de la personne, qui a besoin qu'on lui dise quels sont les textes qu'il faut produire pour attirer ces gens-là. C'est ça le plus important. Et puis, il y a ce client, il fait tout très bien. Vraiment, il fait ça bien. Mais ça marche pas. Alors, il se dit qu'il a besoin de quelqu'un pour le conseiller. Il a besoin que quelqu'un regarde son travail et voit qu'en fait, la moitié de son tunnel de vente est complètement pété. Et que ça ne peut pas marcher parce que les gens se barrent, parce que techniquement, ça casse. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, ça peut être un problème. Il y en a plein des clients. Il y en a une multitude. C'est complètement fou. Et ces clients, ils attendent quelqu'un. Alors, ça pourrait être vous, mais vous pensez que ChatGPT vous a remplacé. Et ces clients, ils ont testé ChatGPT, souvent la version gratuite, et ils ont trouvé qu'il était nul. Mais ils se disent que c'est compliqué maintenant de donner de l'argent à un rédacteur web qui va sans doute utiliser ChatGPT. Ils ont un problème de confiance. C'est comme si vous... Je sais pas, vous allez au restaurant et vous savez jamais si le cuisinier il utilise du sous-vide industriel ou s'il cuisine lui-même, parce que le sous-vide industriel est devenu quasiment aussi bon que le fait maison. Et vous savez pas. Alors c'est l'angoisse. On vous dit c'est 30 euros le plat. Et vous dites mais c'est peut-être du sous-vide industriel. Oui, mais c'est toujours délicieux. Alors on fait quoi? C'est l'angoisse. Etc, etc. Alors les rédacteurs qui vous disent que c'est dur de prospecter, moi j'aimerais juste qu'on remette toute l'équation en place. C'est ce que je vais faire dans ma masterclass demain. Vous allez être quelques dizaines à écouter ce podcast. J'imagine la prospection, la masterclass demain va rassembler aussi quelques dizaines de personnes et ce sera bien comme ça. Comme ça on partage un peu les choses. Après si vous êtes en train d'écouter ça, alors que demain matin, 10h30, il y a la masterclass, je suis désolé. Mais je dirai d'autres choses, c'est promis. En attendant, je me pose vraiment la question de ce qui est difficile. Je comprends que c'est difficile essentiellement parce que les gens ne savent pas ce qu'ils font. Essentiellement. À partir du moment où on a une méthode, à partir du moment où on a du savoir, je vous ai parlé du potager tout à l'heure. Je vous ai dit que y a celui qui fait le potager au début, il sème des graines, et puis il regarde ce qui pousse, et puis il essaye de bouffer directement aux branches. Et puis voilà, il va se dire « j'ai encore faim ». Et le même, je reviens 5 ans après, pour peu qu'il ait été rigoureux, rigoureux, vous savez ce que ça veut dire ? Parce qu'il y a des gens qui imaginent que c'est comme tendre des muscles. « Je suis rigoureux, je suis rigoureux !» Mais non, rigoureux, ça veut dire tu prends ton petit cahier et tu notes tout ce que tu observes. Tu fabriques du savoir, tu réfléchis aux choses, tu vas lire des livres, tu vas essayer de puiser la science des anciens, ceux d'avant toi, ceux qui ont été plus grands que toi et qui ont eu la décence et l'intelligence et la générosité même de partager leurs découvertes avec le monde pour aider la civilisation en échange du prix d'un livre genre 10 euros. Hein, ça juste. Voilà. Et tu vas tirer la substantifique moelle des savoirs que tu vas appliquer en expérience pour en tirer de la sagesse. Savoir plus expérience égale sagesse. Et ouais. Bref, tu vas faire ça avec rigueur et tu vas progresser. Mais si tu notes jamais rien et que tu vas au pif en disant « Ouais, j'ai envoyé 3 mails aujourd'hui, pas de réponse. Oh !» Mais il y a tellement de paramètres qui sont rentrés en jeu qu'on est incapable de savoir pourquoi il n'y a pas de réponse. On est passé à côté de l'essentiel. La science. Qu'est-ce qui fait que les gens n'ont pas répondu ? Et à la limite, c'est même pas si intéressant. C'est plutôt ceux qui répondent qui sont intéressants. Quel est le profil qui répond, qui a répondu positivement? On essaye de développer de la science. Mais pas comme une brute, on essaye de le faire avec méthode. On essaye de faire des tests sur des segments donnés, sur des marchés donnés. On fabrique des produits. On définit des offres qui correspondent à des besoins. On va mettre les gens face à leurs besoins. On va essayer de rentrer en contact avec eux et d'avoir ce temps d'attention suffisant pour leur faire comprendre ce qu'on propose. On va les éduquer. On va leur dire, toi, donnez-moi 100 euros, toi, gagnez 1000 euros. On peut essayer, peut-être qu'ils peuvent comprendre ce qu'est un investissement. Parce que pour l'instant, ils entendent, toi, donnez-moi 100 euros, moi, donnez texte. Non, j'ai pas envie de ça. Ça, c'est nul. Déjà, moi, j'essaye de bosser et de gagner mon argent, c'est dur. Et mon argent, je devrais te le donner contre des textes. Non, il y a ChatGPT, il fait des textes. Un texte, c'est un texte. Voilà. Alors que si je dis, toi, donnez-moi 100 euros, moi, donner communication à toi, communication qui va permettre à toi de gagner 1000 euros, ah, il y a une étape intermédiaire, mais on commence à comprendre un truc. Et au fur et à mesure, on rentre dans la discussion. Mais parmi les conseils que je donne à mes élèves, il y a le fait de dire, et si vous preniez rendez-vous avec vos prospects pour les former. Vous leur dites, je vous propose, si vous n'êtes pas à l'aise avec ce que je viens d'expliquer, de vous faire une petite formation des familles, une petite demi-heure, je tiens bien mon sujet, je vous explique les choses les plus essentielles pour que vous sachiez comment investir intelligemment dans des contenus pour réussir. Oh ben vas-y. Et pour le coup que vous ayez quelqu'un qui est un petit peu genre « Ouais, ça m'éclate bien de discuter avec des gens que je connais pas », ben vous avez l'occasion de bien faire les choses. En plus, vous apparaissez d'un point de vue expert, pour ne pas dire ascendant. La personne, elle vient vers vous pour être formée. Ça commence bien la relation. C'est pas genre « Vous savez écrire ? Ouais, ben je vais vous commander des textes. » Ok. Non. On est sûr, ok, enseigne-moi les choses. C'est une stratégie tout à fait gagnante, mais ça veut dire on se pose et on réfléchit. Vous êtes là en train de noter. Je vous vois. Vous êtes là avec votre stylo en train de noter ce que je suis en train de dire. Mais arrêtez! Mon idée, elle est complètement hors cadre. Elle repose sur rien. Elle n'a pas de contexte. Donc, elle est par définition mauvaise et pas adaptée. Posez-vous. Et si vous avez un stylo, sortez une feuille et écrivez le portrait de votre client. Alors là, vous allez me dire, mais je ne le connais pas, moi. Il s'appelle Roger et il a 39 ans. Alors maintenant, tu vas me raconter sa vie. Ça s'appelle un buyer persona. Alors maintenant, tu vas aller sur Google et tu vas taper buyer persona et tu vas lire les 10 premiers articles. Ça ne te prendra pas plus de temps pour savoir exactement de quoi on parle. Et après, tu crées ton buyer persona. Et si tu ne sais pas l'imaginer, tu vas enquêter, c'est encore mieux. Et si tu ne sais pas comment enquêter, tu peux lui téléphoner à ton buyer persona pour discuter avec lui. Et à un moment donné, tu comprends ce qui lui manque. Et quand tu comprends ce qui lui manque et que tu te rends compte que tu sais le faire, alors tu lui envoies des messages ou tu lui téléphones pour lui expliquer que tu sais ce qui lui manque et que tu sais le faire. Et lui, il va t'écouter parce qu'en effet, il va se rendre compte que c'est bien ce qui lui manque. Ça pourrait être ça, la prospection. L'histoire d'un service qui rencontre la personne qui a besoin de ce service. Et toutes celles qui ont dit non, ce sont des gens qui n'ont pas besoin de ce service, donc c'est un mauvais ciblage. On ne s'est pas adressé aux bonnes personnes. Vous me dites, oh là là, c'est compliqué David, c'est compliqué, c'est compliqué. Souvenez-vous de vos années de lycée, quand tout le monde sortait avec tout le monde, et que vous étiez en train de lorgner sur le beau garçon ou la belle nana, et que vous étiez en train de vous demander comment faire pour lui plaire, parce que c'est vraiment la plus belle, ok? Bon, je sais pas trop jusqu'où je vais avec cette métaphore parce que ça peut blesser des gens, mais est-ce que vous étiez sûr que vous êtes bien face à votre client à ce moment-là? Que cette très jolie fille ou ce très joli garçon sont bien intéressés par vos valeurs, votre produit, ce qui fait que vous êtes différent des autres? Parce que vous répondez peut-être pas aux critères. Alors les critères, c'est quoi? Moi, j'ai appris un truc et je crois que ça m'a ouvert les yeux sur cette question-là. Désolé, hein, on change deux secondes de sujet, mais ça va aller vite. C'était pour les JO, les derniers, je sais plus où c'était. Japon, c'était pas le Japon alors, c'était ceux d'avant. Mais il y avait des JO et en fait, il y avait eu un problème avec les lits, je sais pas quoi. Enfin, les athlètes s'étaient plaints parce que les lits ne tenaient pas. Et en fait, il y avait eu un écho que j'avais entendu, je crois que c'était dans un journal type Libération, quelqu'un qui avait fait un témoignage un peu fin de l'intérieur et qui disait « Tout le monde baise avec tout le monde ». C'est complètement fou, c'est un baisodrome de dingue. Tout le monde baise avec tout le monde. Et il discutait avec une sportive qui était là, qui avait vécu la même chose que les autres, qui avait fait les JO. Et elle disait « Tout le monde baise avec tout le monde, c'est normal, on est les plus belles personnes du monde ». On est les plus belles personnes de la planète. On est sexy à crever tous. Alors après, il suffit d'une petite affinité et hop, on y va. On a jamais vu des gens aussi beaux que pendant les JO où tout le monde sont des athlètes de haut niveau, taillés, sportifs, complètement orientés sur les mêmes objectifs de santé, à essayer à tout prix d'être le plus performant. C'est des machines de guerre, ils ont l'adoration de leur corps, et ils voient quoi? Ils voient des corps absolument parfaits en face d'eux. Ils sont devenus tout fous. Et tout le monde a baisé avec tout le monde. Et moi, ça m'éclate, parce que ça me montre quelque chose de très fort. C'est que je ne suis pas le client d'une sportive. Moi, je suis rondouillard, j'ai ma petite barbe, je me balade avec mon chien, je suis quasiment tout le temps avec des chaussures de marche. Alors c'est vrai que je fais ma petite dizaine de kilomètres par jour, dans le meilleur des cas, mais par contre, voilà, j'avance à mon rythme, je fais mon truc, et j'ai pas du tout l'esprit sportif comme quelqu'un qui fait de la compétition le serait. Moi, je suis une tortue, quelque part. Donc, je peux toujours fantasmer, moi, sur la sportive. Déjà, ça serait à tort, parce que c'est pas ma cam, sinon je serais moi-même en train de faire du sport tout le temps. Si j'avais l'adoration des corps athlétiques, j'aurais un corps athlétique. Tout ça, c'est juste du marketing. Mais surtout, je sais que la réponse sera non. Ou alors, cette personne a une addiction par rapport au sport. Et à côté de ça, elle adore les intellos qui parlent dans le vide pendant toute une balade. Bref, c'est tout à fait possible. Mais comprenez bien qu'on n'est pas le client de tout le monde. Comprenez bien, les femmes, aujourd'hui, j'avais vu... Alors, c'est rétrograde et je sais même pas ce que ça fout là quelque part, mais ça me fait réfléchir. Sur TikTok, j'ai vu une vidéo aujourd'hui d'une femme, une blonde, je sais pas du tout qui c'est, une jeune femme, peut-être la vingtaine, qui dit « Oui, les applications de rencontres ont complètement cassé les échelles, les gens ne se contentent plus de ce qu'ils méritent. » Alors c'est un peu dur, hein, et puis c'est, je sais pas si c'est honnête, mais ils disent « Voilà, les femmes sont sursollicitées sur ces applications, donc elles ont l'impression d'avoir énormément de valeur. Valeur qu'elles ne gardent pas après la rencontre. Et qui finalement est surtout source de déception. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais cette personne disait, vous pourriez faire un peu attention aux mecs pas très beaux, mais tellement plein de promesses juste à côté de vous. Plutôt que de lorgner celui que tout le monde veut avoir, qui fait partie de ces 20% d'hommes qui sont sursollicités par les femmes. Ouais, il n'y a que 20%. Les autres, ils n'entendent même pas parler des femmes. Mais, oh là là, je deviens presque un incel. Il faut que je fasse attention. Je suis désolé. Je vais choquer personne. Mais dans le raisonnement, on est au cœur. Ah, Oli, ma puce, bouge pas. D'ailleurs, une seconde.
Tu me tiens mon téléphone ?
Merci, ma puce.
Je vous demande une petite seconde. Je suis dans le noir avec une laisse.
C'est bien. Allez, hop, viens, on y va. Voilà. Alors, on va changer de main parce que mon chien est spécialiste pour faire des arrêts frein à main. Mais en tout cas, c'est le même raisonnement pour les freelances. Les freelances, alors, les freelances ne sont pas sursollicités. Hein. S'ils commençaient à avoir une valeur de fou, peut-être qu'ils commenceraient à avoir des prétentions salariales indécentes et commenceraient à cibler uniquement les grosses boîtes pour finalement se faire jeter parce que tout le monde s'en fout. J'en sais rien, il y a peut-être des métaphores à faire là-dedans. Mais c'est surtout l'idée de comprendre que votre valeur, enfin votre valeur cette fois-ci, votre valorisation est en lien avec vos clients. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas espérer tomber sur un contrat exceptionnel, très bien payé, très exigeant, si vous ne savez pas faire un bon texte. Des fois, je discute avec des élèves un peu partout du monde. J'ai des élèves à Madagascar, au Bénin, j'en ai au Togo, au Congo. Ah, je mélange les deux, pardon. Congo et Togo, désolé, j'ai les deux. Et Côte d'Ivoire aussi, que je salue. Et on me parle de grands projets, de travailler avec des grosses boîtes, d'avoir beaucoup d'argent, de réussir à bien gagner sa vie. Mais est-ce que tu sais faire ce qu'on va te demander ? Est-ce que tu es suffisamment au niveau pour ça ? Est-ce que tu passes des heures à t'entraîner ou à travailler ? Est-ce que tu as un CV qui est déjà long ou un portfolio qui est déjà riche ? Est-ce que tu as toutes ces choses-là qui te permettent de prétendre à quelque chose d'aussi exigeant que ce que tu souhaites ? C'est une vraie question. Les gens ont un fantasme et ceux qui restent dans le fantasme et qui ne sont pas dans le réel disparaissent, tout simplement. C'est pas qu'on n'en veut pas ou qu'on les déteste, mais ils se fracassent eux-mêmes contre la réalité. Ils se mettent à postuler pour des choses pour lesquelles ils n'ont pas le niveau. Et le niveau, tout le monde peut l'avoir. Mais c'est dans la sueur et dans le sang qu'on l'a. C'est avec l'expérience. C'est là où on a le niveau. Moi, quand j'avais des gens qui me recommandaient, à l'époque de mon agence Séomantique, j'étais recommandé sur des très grosses entreprises, sur des contenus très spécialisés, parce que mon équipe avait fait ses preuves et qu'on était bon dans ces domaines-là, qu'on était très exigeant, que le rédacteur écrivait, me présenter le document, je le validais, puis une correctrice repassait derrière pour revérifier toutes les informations avant livraison. C'était le minimum. Et on faisait payer nos tarifs qui n'étaient pas non plus hors de prix. On aurait pu faire sans doute plus d'argent. Mais on était bon. Et on avait une très bonne réputation. Mais on l'avait mérité et on avait gagné la confiance un à un des prescripteurs, c'est-à-dire des référenceurs qui avaient besoin d'avoir des contenus de très bonne qualité quand ils travaillaient avec des très grosses boîtes. Lily, viens. Allez, ma grande, cours. Voilà. On est de nouveau dans un endroit où il n'y a pas trop de voitures, donc elle peut se balader. Mais c'est ça le plus important. C'est l'expérience, la vraie valorisation. Il est où, mon chien ? Ah. C'est la vraie valorisation qui va compter. la valorisation qui vient avec l'expérience de la prospection, de la même manière.
Eh oh, allez viens.
Tic, 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 ça court, ça court, ça court. Voilà. Et c'est ça ce qui va faire la différence. Les gens d'aujourd'hui, j'ai envie de dire les jeunes, les débutants, ceux qui se lancent, ils doivent comprendre qu'ils vont devoir négocier avec l'insécurité financière pour trouver des réponses à cette insécurité financière et que c'est ça, par leur créativité, qui va constituer leur grande aventure entrepreneuriale. On ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qu'ils font, mais on doit rester en mouvement et on doit trouver des solutions. C'est comme ça qu'on grandit. C'est un peu comme un organisme qui se fait attaquer sans cesse. Il a faim, il apprend à stocker, il apprend à trouver des ressources rapides, il apprend à développer des ressources sécurisées. Et puis après, quand il a trop de ressources, il apprend à les, soit à les stocker, soit à les échanger, à les améliorer, à passer au niveau au-dessus. Il y a des jeux comme ça. Votre organisme, votre cerveau, il est conçu pour ça. Il y a des jeux vidéo. J'ai plus son nom. J'y ai joué, il est affreux ce jeu. Il est tellement dur. Mais c'est pas grave. Il y a des jeux où vous commencez et vous mourrez dès le niveau 1, plein de fois. Et puis à un moment, vous réussissez. Puis vous mourrez derrière le niveau 2, plein de fois. Et vous réussissez. Et à un moment donné, vous êtes au niveau 10 et vous continuez. Et vous mourrez tout le temps, vous avez l'impression d'être nul. Et puis quelqu'un vous dit, tiens, viens, on refait le jeu depuis le début. Et là, c'est hyper facile. Vous savez pas pourquoi, mais c'est hyper facile. Et ça, c'est exactement comme ça que fonctionne la vie. Vous vivez des choses, vous avez des difficultés, vous résolvez ces choses, vous tentez des nouvelles choses, vous apprenez des méthodes, vous remettez en question, vous trouvez des solutions, vous avez l'impression d'avoir ramé et galéré, et c'est vrai. Mais, Oli, stop. Stop, pas bouger. C'est bien, allez. Mais les choses deviennent hyper faciles au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, etc. C'est ça le cœur de la question. La véritable prospection, c'est pas une recette de cuisine, c'est pas quelque chose hors cadre, c'est une relation que vous bâtissez avec quelqu'un qui a besoin de vous. Où est-il ? De quoi a-t-il besoin ? Comment vous allez l'aider ? Quelle est la promesse que vous lui faites ? Et est-ce que vous tiendrez votre promesse ? Le reste, c'est juste de la communication entre lui et vous. Il n'y a pas de secret. Il y a des recettes qui sont là pour alerter davantage, mais ce n'est pas les clients que vous voulez qui vont venir. Assurez-vous d'avoir le bon signal qui attire le bon client. Ne piquez pas les recettes des autres, vous allez être déçus. Il y a des gens comme ça qui, je me souviens qu'il y a des rédacteurs, ils viennent, ils disent « Oui, moi je suis pas cher. » Je reçois des mails parfois de Français, hein, parce que quand c'est des personnes d'Afrique, le fait que les tarifs soient pas chers, c'est normal, parce qu'ils n'ont pas le même niveau que nous, donc en fait, on fait x3 et on regarde ce que ça fait pour la France. Mais il y a des Français qui vous disent, je vous fais des textes pour 15 euros. Mais tu peux pas vivre. Tu peux pas vivre avec cette somme. Tu es en train de te sacrifier. Et en plus, tu m'envoies le signal que tu travailles pas bien. Parce que si tu travaillais bien, tes textes coûteraient cher. Et je pourrais peut-être même pas me les payer. Mais tu travailles tellement pas bien que tes textes ne valent que 15 euros. Qu'est-ce que vous croyez ? Que tout le monde est dans l'attente d'un tarif pas cher ? Les seuls moments où vous aimez les tarifs pas chers, c'est quand vous achetez des choses qui sont chères avec. D'accord ? Vous trouvez un pull d'une marque exceptionnelle. Oli, stop. Stop. Pas bouger. C'est bien. Allez. Vous achetez un pull qui vaut normalement 200 euros et qui est une merveille que vous avez toujours rêvé d'avoir et elle est à 30 euros en solde. 30 euros, les meilleurs 30 euros de votre vie, c'est pas cher. Et puis vous avez ce pull de Noël fait par Lidl ou par je sais pas qui, volontairement dégueulasse avec des trous et qui est sale, et on vous le vend 30 euros et vous le trouvez hors de prix. Le tarif est en lien avec la valeur des choses. Quand vous vous bradez à 15 euros, si vous n'avez pas une très bonne raison de vous brader à 15 euros, genre une offre découverte, une offre essai validée, une offre, je sais pas, un produit qui justifie ce tarif, qui me donne l'impression que c'est pas ça tout le temps, bah si vous faites pas ça, vous avez juste l'air d'être nul. C'est tout ce qui reste. Vous comprenez ? Donc, ne partez pas en mode panique. Passez un petit moment à vous éduquer. Passez un moment à améliorer votre compréhension de ce qu'est la prospection en tant que simple échange entre deux humains intelligents. Et une fois que vous avez commencé à comprendre les essentiels, tentez une stratégie que vous mettez d'abord sur papier avant de l'appliquer. Notez les résultats, proposez des améliorations, mesurez les améliorations, discutez avec les gens, échangez avec eux, parlez de ce qui vous intéresse, faites-vous des copains, progressez ensemble, etc., etc. Un jour, il se passera sans doute quelque chose qui va tout changer. Mais d'ici là, vous allez gagner en compétences. Et vous allez comprendre de mieux en mieux ce qu'est la prospection. Et la prospection n'est pas dure. C'est vous qui êtes bordélique et qui faites n'importe quoi. Mais elle n'est pas dure. Avec de la méthode, elle porte ses fruits. Au bout de combien de temps? Comment? Est-ce que vous avez tout bien fait? Est-ce que vous avez eu la flemme de bien faire les choses? Là, je m'adresse à moi-même, parce que je viens de lancer une pub sur Facebook qui ne marche pas. Est-ce que vous avez eu la flemme de faire tous les détails, toutes les étapes? Oui, j'ai eu la flemme, et je vais payer de l'argent à cause de ça. Mais vous devez vous regarder avec honnêteté. Toutes les stratégies de prospection que vous pouvez trouver, faites entièrement dans les règles de l'art, fonctionnent. Vraiment. Donc, ne paniquez pas, ne trouvez pas ça difficile. Simplement, remplissez les zones d'ombre et essayez de savoir ce que vous faites. Pour le reste, l'expérience va faire le reste. Vous allez progresser. Et ça va bien se passer. Allez. Mon chien qui me demande avant de traverser la route, est-ce que c'est pas le truc le plus mignon du monde ? Allez les amis, c'est la fin de ma balade, je rentre chez moi, je vais commencer ma soirée après vraiment une grande journée. Je suis très content de vous avoir parlé, j'espère que ça aidera quelques-uns à débloquer des choses et si vous avez envie d'avoir un suivi et des conseils plus personnalisés et que vous avez envie, que vous en avez marre d'être seul face à toutes ces galères, le cercle des rédacteurs est là pour vous, c'est pas cher et c'est une communauté qui est là pour vous. Je vous dis à bientôt, bye bye.